Bonjour et bienvenue sur l'Octet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche.
N'oublie pas d'enregistrer, de lancer
ah
le...
Ah oui, enregistrer. Yes.
Recording in progress.
Oh, amazing. Allez, c'est parti. Je m'appelle Tristan Ditto et pour ce deuxième épisode de la troisième saison, je reçois Timothée Paric, docteur en économie. Tim a étudié à Barcelone, à Saint-Quentin-Versailles, enfin par là-bas quoi, dans les Yvelines, à Clermont-Ferrand, à Stockholm et à Uppsala en Suède. C'est simple, moi j'ai l'impression que c'est un influenceur Erasmus en fait, je suis pas allé sur son Instagram. En plus il a une moustache à faire pâlir d'envie Magnum, hein, Magnum le héros de série télévisée, hein, pas l'Eskimo bien sûr, mais c'est pas pour ça que je l'ai invité. Tim est l'auteur d'une thèse très remarquée sur la décroissance, téléchargée 40 000 fois, ce qui l'a poussé à écrire un livre sorti en septembre 2022 chez Seuil, qui est intitulé « Ralentir ou périr l'économie de la décroissance ». Alors, disclaimer, je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, mais tout ce que j'ai lu pour l'instant, c'est un surkiff total, c'est facile à lire, c'est passionnant, c'est stimulant, bref, foncez l'acheter. J'ai pas trop dit de bêtises dans la... Enfin, si, j'en ai dit dans la présentation que j'ai faite de toi.
Pour l'instant, tout est correct. Même la ressemblance avec Magnum.
Ouais.
On est sur du factuel.
Oui, exactement. Ça commence bien. Bon, alors, qui es-tu, ton métier, ton lieu de vie, ton âge ?
Donc, je m'appelle Timothée Paric. Je suis chercheur en économie écologique. Donc, ça fait une quinzaine d'années que j'étudie l'économie. Et maintenant, je travaille à l'université de Lund. C'est dans l'ouest. Tu ne l'as pas cité, l'université de Lund, mais c'est une autre université. Moi, j'ai fait Stockholm, Uppsala, Lund. Je me balade un petit peu en Suède. Et je suis chercheur en économie écologique, c'est-à-dire que je passe la majorité de mon temps à faire de la recherche pour mieux comprendre l'interaction entre l'économie et l'écologie. Et donc, j'ai 33 ans. Et c'est à peu près ça.
C'est pas mal quand même un bouquin à 33 ans et une belle thèse avant. 900 pages, hein, le morceau in English en plus. Alors moi, je l'ai pas lu, mais j'en parlais l'autre jour à Bon Pote, connu sous le nom de Thomas Wagner aussi. Et Bon Pote, il m'a dit qu'il l'avait lu. Moi, je pense qu'il nous ment, hein, mais vous pouvez quand même lire ses articles.
J'ai été impressionné parce que Thomas m'avait contacté aussi en annonçant « Machin, j'ai lu ta thèse ». Il y en a beaucoup qui l'affirment, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais il avait fait le taf, je l'ai quizé et le Thomas Wagner avait fait le boulot, il connaissait.
Ouais, non mais ça m'étonne pas parce que il a beaucoup de qualités et en plus il est travailleur. Ça m'étonne pas
bosse.
Complètement de lui. Ouais, ça c'est fort. Je pense qu'il a les oreilles qui sifflent à ce moment. On va arrêter avant qu'il soit complètement sourd. Alors, comment est-ce que t'es arrivé à prendre conscience de la crise climatique ? Ça t'est venu après que t'aies commencé à étudier l'économie ou c'est venu avant ? Enfin, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet et dans quel sens ?
Alors complètement après, hein. Moi je suis rentré dans l'économie comme beaucoup d'étudiants qui vont étudier l'économie pour, on va pas dire s'enrichir, hein, mais on va dire comprendre la mécanique du capitalisme, peut-être pour s'orienter vers une école de commerce, ce genre de choses, et pour devenir vraiment un acteur de terrain de l'économie. Mais en troisième année, j'ai été envoyé en Suède pour faire un Erasmus. C'est là où je fais la petite promo d'Erasmus. Hein. N'hésitez pas
à faire des échanges. C'est bon, mangez-en.
sans modération. Et donc, Erasmus, je me retrouve à l'université d'Uppsala. L'université d'Uppsala, je ne savais pas à l'époque, mais qui est spécialisée en économie écologique et dans l'étude interdisciplinaire de ce qu'on appelle maintenant la science de la soutenabilité. Et là, je prends une claque. Vraiment, je découvre non seulement le changement climatique, mais la crise écologique en général, et je découvre mon incapacité totale en tant qu'étudiant d'économie à même pas penser la solution, à même comprendre le problème. Donc là, une grosse claque qui me dit, très clairement, là, je me retrouve confronté à un problème, je n'ai pas les outils pour les résoudre.
Et alors ?
Eh ben, suspense. Donc c'est pour ça, je reviens en France, je me mets à étudier l'économie environnementale, qui est l'application un petit peu des théories néoclassiques à la problématique du changement climatique et des autres crises écosystémiques. Là, pareil, je reste un petit peu sur ma faim parce qu'on reste sur des théories qui sont très centrées sur le monétaire. On ne prend pas vraiment en compte la complexité des écosystèmes. Et donc, je décide de retourner en Suède et là, de rebrousser les manches et de faire un master interdisciplinaire en économie écologique. Donc, d'apprendre un petit peu de climatologie, de biologie, de physique. Je m'ouvre à des choses que j'avais jamais faites avant et de cette soupe interdisciplinaire. Eh ben, je concentre ça pour essayer de me comprendre, moi ce qui était mon objectif à l'époque, mieux comprendre ce phénomène qui est la croissance économique. Et quand j'ai mieux compris ce que c'était que la croissance comme phénomène, ça m'a amené doucement vers la réalisation de son impossibilité biophysique, Et ensuite, après, de son impossibilité sociale aussi. Et c'est ça qui m'a amené à étudier, à partir de 2014, la décroissance.
D'accord. Alors, on va faire une pause vite fait. Là, tu viens de lever un truc qui est, je pense, fait partie du problème de la compréhension de toute la problématique climat. C'est que c'est incroyablement compliqué et incroyablement multidisciplinaire, en fait. Depuis que je suis un peu tombé dedans, je me suis retrouvé à faire de la chimie, tu vois, j'en avais pas fait depuis la terminale, de la science physique, de l'économie, de la psychologie, de la sociologie, tu vois, pourquoi les gens changent pas, pourquoi ils font de la résistance, pourquoi ils sont dans le déni. Ça, c'est des trucs là, profondément humains. Et ça demande en fait de s'ouvrir à plein de domaines très très différents. Et je pense que c'est pas étranger au fait qu'on a du mal à progresser là-dessus. C'est que on a tous plus ou moins tendance à être justement focalisés sur des domaines relativement étroits. Alors que pour comprendre la problématique climatique, il faut vraiment s'ouvrir l'esprit sur plein de domaines très différents. Mais on va revenir à ce que tu disais, qui est donc la problématique de la croissance. Tu disais c'est pas soutenable.
Ouais. J'ai parlé de son impossibilité à la fois écologique et sociale. Et donc, bon, moi, je suis arrivé déjà par la critique écologique de la croissance, c'est-à-dire que quand on part de la physique, donc des lois de la thermodynamique, la loi de la conservation, la loi de l'entropie, et ensuite des lois de la biologie, c'est-à-dire quand on observe le monde du vivant, le vivant, ce sont jamais des organismes en croissance infinie exponentielle. C'est toujours des cycles de croissance, de stabilisation, de déclin. C'est des cycles naturels comme ça. Et donc, quand on observe ce phénomène des sociétés humaines de se dire on devrait avoir une croissance de 3% chaque année, ce qui veut dire que toutes les générations, l'économie double de taille et ça jusqu'à l'infini, on se dit quand même, bon, c'est curieux comme truc.
Ouais, c'est ça, c'est dingue. Attends, 3%, c'est ça double de taille en gros 35 ans, quoi. Enfin, une ou 20 ou 30 ans.
Ah, mais moins tous les 24 ans.
Tous les 24 ans. C'est fou, quoi. Donc, en fait, en 100 ans, t'as doublé une fois, donc t'es à 4 fois, 8 fois, 25 ans.
Et à chaque fois, ouais, on a un dédoublement de la nouvelle taille de l'économie. Donc là, t'imagines, si on a 3% de croissance par an dans l'économie française aujourd'hui.
Donc en un siècle, c'est x 8, quoi.
Eh bah ouais, chaque génération, donc tes enfants, quand ils viennent naître, ils auront une économie qui est deux fois plus grosse. Et leurs enfants, deux fois plus grosse. Et leurs enfants, deux fois plus grosse. Et on se rend bien compte que la logique de l'exponentielle, au bout d'un moment, au début, ça, c'est pas grand chose. Mais après, c'est gigantesque. Moi, ça m'a choqué dès le départ parce que je me suis dit, seul dans les modèles néoclassiques où en fait on se dit, on a une fonction de production. Donc, dans des modèles économiques, la fonction de production, c'est ce qui explique ce dont les ressources que tu as besoin de mobiliser pour produire un truc. Et si, bien sûr, dans ta fonction, tu dis, pour produire un truc, j'ai besoin de connaissances et d'argent et de travail, et que à travers le progrès technologique, on peut augmenter la disponibilité de ces choses-là et les substituer à foison. Donc, peut-être, on n'a plus de forêt, mais c'est pas de souci. On peut utiliser de la connaissance au lieu d'utiliser de la forêt. Bien sûr, tu peux croître à l'infini.
Pour faire des maisons, ça va être compliqué, hein.
Tu rigoles, mais la plupart des modèles néoclassiques, ce qu'on appelle des hypothèses de soutenabilité faible, c'est-à-dire qui prennent en compte la substitutabilité. Alors, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu peux substituer un facteur pour l'autre. Donc, par exemple, tu veux construire une maison ou tu veux faire des pizzas. Si tu n'as plus de pâtes, ce n'est pas un problème. Tu peux juste avoir plus de fours ou avoir plus de pizzaiolo. Mais enfin, c'est débile parce que tu te rends bien compte le jour où tu n'as plus de pâtes, tu peux avoir 12 000 fours et 12 000 pizzaiolo, tu ne feras plus de pizza. C'était la grande critique d'Hermann Daly dans les années 80.
Il y a des cas où c'est vrai. Par exemple, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, forcément, mais tu vois, on a eu des batteries au cadmium-nickel et maintenant on a des batteries au zinc ou au lithium-ion, enfin, avec des technologies et des matériaux différents. Donc, on pourrait presque dire que oui, c'est pas grave. Si le nickel et le cadmium, on avait tout épuisé, on fera des batteries au cobalt, etc. Donc, dans certains cas, la substitution de matériaux est quelque chose de possible. C'est juste que, imaginer que toute l'économie fonctionne comme ça, là, c'est de la foutaise, quoi.
Ah, mais faut faire attention, parce que là, c'est pas la substitution entre matériaux, c'est la substitution des matériaux avec du travail et des connaissances. C'est parce que les batteries, il faudra toujours des matériaux pour les construire. Tu pourras jamais utiliser seulement de la connaissance.
Ouais.
C'est ça, en fait. Dans un modèle néoclassique, tu peux, à partir de connaissances et d'argent, tu peux produire une batterie.
D'accord.
Ce qui est quand même ultra bizarre. Parce que si t'as pas d'énergie et t'as pas de matériaux, comment tu vas le faire, le truc?
Ouais, ouais, c'est clair. À propos d'énergie, là, ça t'apprendra, tiens. Donc, t'as fait nosgesteclimat.fr, hein, sachant que, en gros, le français moyen, il est à 10 tonnes par an. Il émet 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et que, bah, pour arriver à l'accord de Paris, d'ici 2050, il va falloir qu'on divise ça par 5 pour arriver tout ça à 2 tonnes. Laissez-moi vous dire que ça va pas être simple. Néanmoins, on se rend compte que on n'est pas tous à 10 tonnes. 10 tonnes, c'est une moyenne. Et on est carrément plombé par des gens qui consomment énormément, typiquement des gens qui ont des jets privés. En fait, c'est des ultra-riches qui plombent tout, quoi. Alors du coup, t'es à combien, toi ?
Je suis arrivé à 3,6 tonnes sur le test.
C'est juste... Alors, on pourrait se dire, moi, il doit arriver à 2 tonnes, c'est nul. Non, 3,6, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Alors j'ai rencontré des gens qui faisaient un peu moins, mais c'est super dur. Moi, je suis en dessous de 6, mais pas beaucoup en dessous de 6. Et je suis à plus de 5, je suis entre 5 et 6. Et je peux vous assurer que c'est pas... Et pourtant, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'à une époque. Hein. Comment tu fais ? C'est quoi ton style de vie ? Qu'est-ce qui fait que tu es différent ? Peut-être, avant que tu me répondes, une petite précision. Tu habites en Suède, et là on est parti du principe que tu résidais en France pour faire le test, hein, parce ouais. Que évidemment c'est une évaluation qui est basée sur un mode de vie français, avec une électricité décarbonée à la française, enfin bon, etc. Et en Suède, ces paramètres sont différents, donc ça serait Tim Paris qu'habitant en France qui aurait un score de 3,6, et pour ton vrai score en Suède, j'avoue qu'on n'a pas les outils pour décider. Non, mais c'est important d'être précis.
Oui, sur non, c'est important, et surtout que dans le score, il y a une partie de ton empreinte que tu hérites de l'empreinte générale des administrations publiques.
Oui, qui est très sensible, hein, qui est plus d'une tonne. Hein, donc, oui.
Ouais, dans la mienne, là, j'ai vu, c'est presque 40% de l'empreinte. Et ça se le verrait d'un gouvernement à un autre. Ça dépend aussi beaucoup des activités militaires, hein, qui sont une grande partie de l'empreinte des administrations publiques. Là, je n'ai pas les chiffres, mais ça serait intéressant de comparer l'empreinte carbone de l'armée suédoise et celle de l'armée française par habitant.
Oui, alors on en discutait récemment. Il faut peut-être rappeler que certains pays n'ont pas d'armée. Hein.
Ouais, voilà. Je crois que je parlais du Costa Rica et de l'Islande.
Voilà. Alors, ton style de vie ?
Alors, mon style de vie, déjà, je vais commencer par dire que moi, sur bien des aspects, j'ai un aspect... Enfin, je suis un privilégié. Par exemple, moi, j'habite dans un logement partagé en Suède, à Lund, qui a été construit il y a 3 ans. Donc, tu peux imaginer, c'est le NEC plus ultra des bâtiments passifs.
Basse consommation, ouais.
Qu'on partage avec plein de gens, avec la buanderie suédoise commune classique, avec un système de recyclage top-notch, avec le jardin partagé qui va avec. Donc là, beaucoup de chance d'avoir accès à ça. Après, moi, ça fait longtemps que je prends plus l'avion, je mange pas de viande, j'essaie vraiment de réduire l'empreinte de mon alimentation en me débarrassant des aliments qui étaient le plus intenses en émissions, mais aussi en eau, mais aussi avec les impacts sur la biodiversité. Pareil pour en entrant dans la décroissance, enfin, toutes les choses, moi, j'achète beaucoup moins de trucs. C'est vrai que mon poste principal de dépense, c'est des livres aussi que je fais acheter
c'est
à l'université.
C'est des puits de carbone, les livres en plus.
À l'université, donc tu vois, c'est des trucs qui arrivent à la bibliothèque. Donc ça aussi, je pense que c'est une empreinte partagée sur le livre qui va être utilisé pendant 40 ans ou quoi. Mais pour avoir ce luxe, il faut avoir accès à une bibliothèque que tu peux partager. Et pareil, moi, je prends, donc je me déplace beaucoup. Je pense que ça doit être une grosse partie, même si je prends que le train, mais j'en prends énormément. Et donc, à chaque fois, je fais des allers-retours par Suède-France, hein, c'est 18 heures, t'as 4 trains, dont parfois un petit train allemand qui sent un petit peu le charbon, qui plombe un petit peu toute l'empreinte du voyage et tout, qui est ultra clean, et juste tu te retrouves sur ce petit morceau de train et tu fais merde.
Non, mais ça c'est classe, tu vois. Franchement, tu me scies là, je pensais pas que tu faisais tes allers-retours France-Suède en train, quoi. Chapeau. Hein.
Bah, c'est beaucoup plus simple maintenant, hein. Là, tu peux t'en tirer avec 4 trains, tu peux le plus rapidement, le record. C'est 16 heures. 16 heures, pour moi, c'est d'une rapidité, j'enlève même pas mon manteau. Hein. Comparé au quand je faisais des trips pendant mon doctorat où c'était plutôt entre 33 et 40 heures.
Ah ouais.
Là, c'est dur. Le 16 heures, tu le fais en journée. Hein. Moi, je pars de la Suède le matin à 5 heures du matin. Je suis dans mon lit ici en France à 11 heures du soir. Vraiment, grand luxe.
Excellent.
Ouais, ouais.
Bah, c'est bien, ça s'améliore. On n'entend pas ça souvent à propos du train. C'est le fait que ça s'améliore.
C'est pas mal, il y a les trains de nuit qui reviennent aussi. Et juste pour dire à ceux qui ont un petit peu peur de se lancer dans l'expérience, le premier voyage est infernal. Pour avoir fait des Stockholm-Barcelone 45 heures avec plus de 8-9 changements, c'est l'enfer. Mais après, en fait, on s'y habitue. Et maintenant, quand on me dit,
bah, on apprend,
ah bah tiens, je suis invité, en fait, je sais plus, à aller en Autriche ou quoi, et on, ah bah tiens, c'est 10 heures, ou à venir en Espagne avec un train de 8 heures, je me dis, voilà, c'est le métro. 8 heures, c'est le métro. C'est vraiment, je reste debout, j'attrape la barre.
Ouais, il y a des gens qui sont restés scotchés 8 heures dans le métro, ils peuvent te confirmer.
Et un autre truc qu'on calcule pas beaucoup, mais qu'on commence à calculer, c'est l'empreinte associée à ton patrimoine financier.
Ah oui.
Donc ça, c'est ultra important. Et on peut comparer maintenant avec des comparateurs pour voir, bah, si tu laisses ton livret d'épargne à la Société Générale ou à la BNP dans des banques ultra polluantes, tu vas hériter, en fait, d'une grosse empreinte que tu n'aurais pas si tu avais ton épargne à la nef ou au crédit coopératif, qui sont des banques qui se sont engagées à ne plus investir dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est une grande partie. On n'en parle pas beaucoup et on a l'impression, voilà, que à partir du moment où tu mets ton argent à la banque, c'est plus ton problème. Mais il y a un véritable levier de se poser la question, surtout pour ceux qui ont énormément d'épargne, de se dire, bah voilà, si je veux que mon argent ne soit pas associé aux énergies fossiles, il faut que je choisisse ma banque en fonction. Et même quand je choisis ma banque, il faut vraiment s'assurer que toute l'épargne que tu as ne soit pas associée directement ou indirectement à des investissements fossiles.
Ouais, ouais. Ce qui est effectivement pas évident, parce que on s'est rendu compte, il y a eu des gros titres récemment, qu'il y avait quand même beaucoup d'investissements prétendument verts qui étaient vachement gris quand même. Hein. Il faut se méfier. C'est-à-dire qu'ils ont bien fait du greenwashing.
Ça greenwash à tout va.
Ouais, c'est terrifiant. À propos de ton travail et de la décroissance, il y a quelque chose qui m'avait assez fasciné. Et avant, déjà, je vais faire mon malin, tu vois. Je sais que t'es pas complètement d'accord avec moi, mais je vais le dire quand même. Moi, j'ai un postulat, c'est que le capitalisme, c'est une religion. Parce qu'en fait, c'est une façon d'expliquer le monde et d'organiser le monde et de dire que c'est comme ça que ça marche. C'est un peu un truc tombé du ciel. Et que donc, en fait, si le capitalisme est une religion, eh ben, la croissance est son prophète. C'est-à-dire le truc qui incarne le capitalisme, c'est la croissance, quoi. C'est la statue qu'on vénère, quoi. Il en faut absolument de la croissance. Et du coup, quand on parle de décroissance, eh ben, en fait, on blasphème. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une conversation avec Jean-Michel le Zemmouriste. C'est parce que pour lui, si tu veux, c'est absolument pas audible. Enfin, c'est blasphématoire que de dire que il faut plus de croissance, il faut au contraire de la décroissance. Voilà, moi j'ai fait le malin, je ferme ma parenthèse et je reviens à ta question, à la question que je voulais te poser. Tu m'as parlé de trois phases de rejet, trajet, projet sur la décroissance. J'ai trouvé ça assez sexy comme explication sur l'histoire, en fait, de la décroissance. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus?
Ouais, bah déjà, ça, je ne vais pas prendre crédit pour cette magnifique triade qui vient du philosophe français Michel Lepezan dans son livre « Politique de la décroissance, proposition pour penser et faire la transition », un livre de 2013 que je considère l'un des livres vraiment les plus précis sur la décroissance. Vous pouvez regarder aussi l'un de ses derniers livres qui est sorti en mai de cette année, qui s'appelle « La décroissance et ses déclinaisons », qui est très bien aussi. Et Michel Lepezan est le maître des jeux de mots. Et des conceptualisations comme ça. Donc, c'est un véritable bonheur pour ceux d'entre nous qui adorent ce genre de truc. Donc, toi, Tristan, je pense que tu vas adorer.
Je kiffe. Ouais, déjà, ouais.
Et donc, ça, mais c'est une triple division qu'on retrouve tout le temps. Hein. C'est donc le rejet, c'est la critique de l'ordre existant. Et je suis d'accord avec toi, ce sera ici une critique de la religion de la croissance et de la religion du capitalisme. Le projet, c'est la société, le projet de société. Donc, si on ne veut pas être dans la religion du capitalisme et dans l'apologie de la croissance, eh ben, quel projet de société on a? Et le trajet, c'est comment est-ce qu'on va passer d'une économie de croissance aujourd'hui à une économie de décroissance ou de post-croissance. Donc là, on a ça. Moi, dans le livre, c'est ça vraiment ce qui structure ma pensée. La première partie, c'est le rejet. Et moi, je divise ce rejet vraiment déjà exactement comme tu l'as fait, en conceptualisant la croissance comme une idéologie. Une idéologie ou ce que les anthropologues appelleraient un fait social total. C'est-à-dire que, on va parler en termes d'informaticiens, c'est-à-dire c'est un logiciel qui vient organiser l'intégralité de la société. Le travail, la monnaie, la propriété, notre relation au temps, notre relation aux autres. C'est vraiment une matrice qui prédétermine énormément des relations sociales et de la manière dont on va interagir avec la nature. Donc c'est ça, en fait, rejeter la matrice du capitalisme et de la croissance, eh ben, c'est faire la critique d'un ordre existant. Moi, je la fais en trois étapes, hein, de dire que la croissance, non seulement elle est écologiquement insoutenable, ça on en a parlé un petit peu, que même si elle était écologiquement soutenable sur le long terme, eh ben, elle ne serait pas socialement désirable, dans le sens où il y a aussi des limites sociales à la croissance. Ça, on pourrait expliquer un petit peu, mais c'est sur la même logique. Les écosystèmes ont des capacités de charge, les sociosystèmes ont aussi des capacités de charge.
Et en particulier, on peut dire que là où c'est un problème, c'est que ça crée des inégalités. Et on se rend compte, là, j'ai pas ta science ni ta mémoire, mais il y a des études super sérieuses qui démontrent qu'en fait, le bonheur dans une société est directement lié à la réduction des inégalités. En fait, le critère numéro un pour que une société au sens large soit heureuse et que les gens soient épanouis, on voit une corrélation avec une réduction des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches. Et qu'en fait, les plus riches sont pas malheureux d'être un peu moins riches, mais tout le monde est plus heureux qu'il n'y ait pas une énorme différence financière entre les moins riches et les plus riches. Et donc, ça, c'est super important de se souvenir de ça. Avoir des super riches dans une société, ça n'est pas facteur de bonheur. Au contraire. Je te laisse reprendre.
Ouais, je renvoie aux personnes, un livre de Kate Pickett et Richard Wilkinson qui s'appelait The Spirit Level, Why Equality is Better for Everyone. Et donc, ce livre, il montre à force de comparaison internationale et vraiment avec une force empirique importante. C'est pas un livre, c'est pas un slogan d'activiste ou quoi. C'est une étude extrêmement sérieuse basée sur le travail de Richard Wilkinson qui a passé sa vie à étudier ces choses-là qui n'ont que oui.
Génial.
On a un lien inverse. Plus les inégalités s'accroissent, plus la qualité de vie se dégrade. Ça peut être l'espérance de vie, ça peut être les taux de confiance, ça peut être le dynamisme d'une démocratie, ça peut être la qualité des services publics. Et donc, oui, si l'on admet que le but de l'économie, c'est le bien-être, et si l'on veut aujourd'hui augmenter le bien-être, parce que c'est un petit peu ce que nous disent les apologues de la croissance. Oui, mais on a besoin de la croissance pour le bien-être. Alors qu'en fait, empiriquement, une véritable recette pour augmenter le bien-être dans un pays aujourd'hui comme la France, ça serait de réduire les inégalités. Ce serait beaucoup plus efficace que d'augmenter le PIB, qui, en France, est complètement décorrélé, le PIB par habitant, des indicateurs de qualité de vie. Donc, tu peux continuer d'augmenter le PIB, enfin, ça fera pas augmenter l'espérance de vie, ça fera pas augmenter les taux de confiance, ça fera pas augmenter le bonheur par habitant. Donc, à quoi bon? Surtout si ça vient saccager la nature.
Oui, en plus, hypothéquer donc notre futur, parce que, évidemment, sans la nature, l'humain n'a pas sa place, quoi. Enfin, il va pas se nourrir.
Hypothéquer notre futur et hypothéquer même le présent des populations les plus vulnérables aujourd'hui. Enfin, là, aujourd'hui, ces populations dans un pays, je sais pas, comme le Pakistan qui se retrouve inondé, comme la côte somalienne qui se retrouve dans l'incapacité de vivre de la pêche, comme les fermiers syriens oui. qui se retrouvent dans l'incapacité de vivre de leur culture, c'est des sociétés qui se sont déjà effondrées parce que dans le passé, nous avons déjà hypothéqué leur futur pour maintenir ce que, moi, j'ai beaucoup les chercheurs qui appellent ça le mode de vie impérial des pays du Nord. De se dire, en fait, nous, on va continuer de produire, consommer, même si ça veut dire utiliser énormément plus de ressources et émettre énormément plus de pollution. Et aujourd'hui, là, on se rend compte un petit peu du revers de la médaille, mais c'est ça le problème. Et c'est là vraiment la subtilité éthique de la question, c'est qu'on se prend le retour du bâton, mais ce ne sont pas ceux qui ont profité de la croissance qui se prennent le retour du bâton. C'est-à-dire que nous, on a eu le festin et la note arrive dans les pays du Sud qui aujourd'hui se prennent le retour de bâton. Donc nous, c'est pour ça qu'on peut se poser des questions un petit peu bourgeoises, de dire oui, mais devrait-on vraiment abandonner la croissance? Est-ce que ça va nous rendre malheureux? Ce qui est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui en France quand t'as une ou deux canicules, c'est déjà dramatique. On a déjà des milliers de morts. Mais c'est quand même moins bien pire que quand on a une canicule dans un pays où justement ils n'ont pas l'accès à toutes les choses qui permettent de te défendre
ouais.
dans un cas pareil.
Et même ça pousse au cynisme, c'est-à-dire que oui, bah, si c'est eux qui payent l'addition, on peut très bien continuer comme ça encore un petit peu plus longtemps, quoi. Parce que après tout, c'est sympa de pouvoir gaspiller, c'est sympa de pouvoir acheter plein de trucs sur Amazon. Enfin bon, voilà, c'est sympa de pouvoir rouler en SUV. Objectivement, les SUV, c'est plutôt plus sympathique qu'une vieille guimbarde, quoi. Ok, mais la différence, elle est énorme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est marginalement mieux un SUV qu'une 205. Par contre, si ça fait payer des gens qui souffrent dans un pays lointain, l'archipel des Tuvalu qui disparaît sous l'eau, ou etc., le prix pour eux, il est sans rapport avec le bénéfice minime que ça m'apporte, quoi.
Ah ben, complètement. J'ai cette phrase que j'aime beaucoup dans l'introduction où j'essayais d'être un peu choc et j'écris « Si la mine de cobalt se situait dans mon jardin et que mes enfants travaillaient dedans, j'y réfléchirais à deux fois avant de changer de téléphone portable. »
Exactement.
Et là, on se rend compte, en fait, moi, c'est ça qui m'a fasciné avec le changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est l'un des premiers problèmes qui crée une morale internationale et intertemporelle. C'est de se dire maintenant, la façon dont je me nourris ici, maintenant, à Paris, aujourd'hui, je sais, va avoir des conséquences sur les générations futures, sur les générations présentes, sur les personnes ici, sur les personnes là-bas. Et donc, je me retrouve connecté à prendre une décision éthique. Et ça, je pense que c'est une opportunité extraordinaire, justement, de créer un nouveau cadre, une nouvelle morale internationale qui nous permette, justement, d'être une espèce plus solidaire, de prendre cette opportunité, pas justement comme une contrainte écologiste de dire « Ah, il va falloir serrer la ceinture, il va y avoir plein de conflits », non, de se dire « Bah voilà, c'est une opportunité de partager des choses qu'on ne savait même pas que l'on partageait, des choses que l'on ne savait même pas qu'on avait en commun. »
Bah, la planète, le climat,
exactement,
la biodiversité, ça, c'est commun à tous les humains. On a toujours pas donné la définition de décroissance et de post-croissance, et ça, je pense qu'on pourrait pas faire autrement.
C'est vrai. Donc, on a parlé un petit peu du rejet, ça, voilà, la critique de l'idéologie de la croissance, de son impossibilité, et qui, il faut pas l'oublier, est une critique du capitalisme aussi. Une critique, bien sûr, des choses qui aujourd'hui satellitent autour du capitalisme, donc le néolibéralisme, hein, comme mode de gouvernance d'un système capitaliste, l'extractivisme, comme mode, on va dire, d'approvisionnement en ressources d'un modèle capitaliste de croissance, le consumérisme, comme rapport à la consommation qui permet justement une accumulation du capital, toutes ces choses, en fait, qui s'emboîtent dans une mécanique de mouvement perpétuel qui n'a qu'un seul but, l'accumulation du capital et donc la croissance économique. Donc ça, c'est le rejet, c'est la chose que l'on attaque, hein, quand on parle de décroissance. Mais maintenant, je vais donner deux définitions, une du trajet et une du projet. Et attention, spoiler alerte, elles sont parfaitement symétriques.
Aïe, aïe, aïe.
Donc je me lance, la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors là, elle est en cinq éléments. L'élément factuel, c'est la réduction de la production et de la consommation. Donc ça, on comprend bien l'inverse de la croissance, un petit peu comme une récession, c'est un ralentissement de l'économie. D'une période à l'autre, on produit et on consomme moins. Et ça, si on le fait...
Alors attention, c'est un petit peu comme la récession, mais ça n'est pas une récession, et voici pourquoi. Vas-y.
Exactement, c'est pas une récession parce qu'on a quatre caractéristiques qui la différencient d'une récession classique. Soutenabilité, démocratie, justice et bien-être. Donc la première des différences, c'est qu'on ralentit l'économie pour alléger l'empreinte écologique. La récession, elle fait pas ça. La récession, c'est l'économie qui ralentit parce qu'on a merdé. C'est un accident du capitalisme, en gros. Personne la veut.
Là, c'est une décision pour, en fait, qu'on vive mieux, enfin, dans un environnement, dans une nature qui est pas matraquée par notre activité, en fait. On peut dire ça comme ça?
C'est ça. C'est de se dire, là, en France, on est en dépassement des limites planétaires. On n'arrive pas à verdir notre économie dans sa taille actuelle. Et donc, nous n'avons pas le choix. Nous devons réduire ces choses que nous n'arrivons pas à verdir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une décroissance qui va être différente en fonction des pays, en fonction de ce qu'elles se produisent. De la même manière que l'un des aspects de cette réduction, bien sûr, c'est la sobriété de consommation. Si tu es à 15 tonnes par an et que tu dois passer à 2 tonnes, le changement de mode de vie ne sera pas pareil que si tu es à 4 tonnes et que tu dois passer à 2 tonnes. Mmh. Pareil, la décroissance aux États-Unis, elle va être beaucoup plus brutale que la décroissance au Danemark. Mais là, le but, c'est de venir cibler des biens, des produits, des secteurs, des entreprises, des consommateurs, justement, pour que le ralentissement de la production et de la consommation se fasse intelligemment pour alléger l'empreinte écologique. Alléger, ça veut dire l'alléger suffisamment, justement, pour que l'économie arrive à un stade où elle puisse fonctionner sans dégrader les écosystèmes sur lesquels elle se repose. Donc là, c'est vraiment la contrainte un petit peu écologique. Et là, on rajoute ensuite deux contraintes sociales pour que cette décroissance se fasse et qu'elle soit efficace, mais non seulement efficace, mais aussi juste et joyeuse. Il faut qu'on la planifie démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Et ça, c'est aussi des grandes différences parce qu'une récession, on le sait, la récession, elle frappe les plus pauvres d'abord, ce qui n'est pas juste. Parce que c'est ces personnes, justement, qui devraient voir leur pouvoir d'achat, leur pouvoir de vivre augmenter. Et donc là, pendant une période de décroissance, il faudra faire quelque chose d'un petit peu subtil, c'est ralentir l'économie dans son ensemble, mais faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui les plus vulnérables arrivent quand même à augmenter leur qualité de vie. Donc là, ça va demander une grande redistribution des richesses, des revenus, des accès aux ressources naturelles. Et ça, on fait ça non seulement dans un esprit de justice sociale, mais aussi, et ça c'est l'objectif final, dans le souci du bien-être, on en a parlé, si l'économie, le but c'est de satisfaire des besoins, de nous contenter, d'organiser socialement en fait la prospérité matérielle d'une société, et quand on fait notre petite sélection de dire tiens, ça les jets privés, la publicité, tout le monde s'en fout, si je supprime la publicité demain, personne tombe dans la pauvreté. Si je supprime le chauffage demain, là, je pense qu'il va y avoir un problème. Donc là, ou même si on commence à parler de publicité, ou même de vol en avion, si je supprime les vols en jet privé demain, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si je supprime les vols des médecins, Médecins Sans Frontières, qui vont dans des zones à risque en urgence, là va y avoir, je pense, une des conséquences neutres sur la qualité de vie. Donc là, on voit qu'il faut faire une sélection. Et c'est pour ça qu'on a le planifié démocratiquement. C'est-à-dire que le planifié démocratiquement nous permet d'organiser intelligemment cette transition pour qu'elle se fasse dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être.
Ce mot de planification, il est essentiel. Je reprends ton exemple. Si on veut supprimer les jets privés, en fait, là où il y a une nuance, c'est quand même, ça va être un sale coup pour les hôtesses, les stewards et les pilotes de jets privés. Et c'est pas mortel pour eux, mais perdre son boulot, c'est pas un sujet facile. C'est moins pire que de mourir, quoi. Mais justement, cette planification, elle nous permet de dire, ok, ces gens-là qui ont des capacités, comment est-ce que on les oriente pour les former, leur retrouver des jobs, etc. C'est-à-dire que c'est une planification qui permet d'organiser ça versus une récession qui est un accident subi et sur lesquels les gens ils perdent leur job et puis on s'en fout parce que de toute façon, tout le monde est en crise. Quoi. Il y a cette importance de planification, de décision. Ok, ces sujets-là, on va les réduire de façon à amortir l'impact pour les gens qui sont victimes de la chose.
Bah exactement. Et on va dire, tu prends une grande entreprise automobile qui vend beaucoup de 4x4. Là, on lui dit, bon, bah voilà, les 4x4, c'est un modèle de voiture complètement inadapté à la situation, il faut arrêter d'en vendre. Et donc là, l'entreprise, si on venait transformer cette grande entreprise automobile qui est aujourd'hui une entreprise privée à but lucratif et qui fait tout pour maximiser ses profits, on lui dit, bon, maintenant, comme toutes les entreprises, vous suivez les règles de l'économie sociale et solidaire. Vous devenez une coopérative à lucrativité limitée. Et votre raison d'être, ça va être d'organiser la mobilité de la manière la plus écologique possible, de la manière la plus, un accès à la mobilité le plus juste. Bah, cette entreprise, elle va dire, bon, bah, déjà, la ligne des SUV, on la ferme. Ça, c'est l'aspect fermeture. C'est important. C'est-à-dire, on arrête de faire des SUV et peut-être on arrête de faire de la publicité. Mmh. Ça, c'est tout. On met toutes les informations disponibles sur une agence indépendante que choisir, par exemple, sur tous nos modèles, mais on ne fait plus de publicité. Si les gens veulent acheter des voitures, voilà, on leur donne les informations, mais on arrête d'inciter à l'achat. Pareil, on essaye d'organiser toutes nos choses pour avoir des réseaux de partage de voitures pour faciliter ces institutions-là. Et on essaye d'avoir un design façon économie circulaire pour faire en sorte que les voitures soient le plus durables possible. Donc ça, on fait ça. Ça, c'est l'aspect fermeture. Et l'aspect ensuite, il y a un aspect redirection. De se dire, ah bah tiens, nous, on a des compétences. On a des usines, on a des ingénieurs. Et là, aujourd'hui, par exemple, on a besoin de quoi? On a besoin d'énormément de vélos cargo, de modes de mobilité active. On a besoin d'étendre la capacité des services publics, le tram, le métro. Donc là aussi, les entreprises peuvent se poser des questions et se dire, voilà, moi, pour contribuer à cette transition écologique, je peux mobiliser mes ressources et mes compétences pour faire ça. Ça va faire beaucoup moins de profit que ce qu'on faisait avant. C'est pour ça qu'elles le font pas. Et c'est pour ça que le statut d'entreprise à lucrativité limitée, où de toute manière, les profits ne peuvent pas être distribués à des personnes privées, mais sont associés à une fondation ou réinvestis dans l'activité, est beaucoup plus approprié pour la transition écologique. Et là, on voit qu'on a un mix où on va avoir une grande partie de fermeture, des activités qui disparaissent complètement, des activités qui vont juste ralentir, et d'autres activités où on va avoir une redirection vers la création de nouveaux biens et services. Et là, comme tu le disais, oui, il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Donc, sur la problématique de l'emploi, déjà, on peut jouer sur le temps de travail. Au lieu de se dire, bah voilà, si la demande baisse de 20%, on vire 20% des personnes. Non, on peut se dire, bah tiens, on va jouer sur, on met tout le monde à 80%. Ça, c'est exceptionnel parce que ça crée des co-bénéfices sociaux énormes. C'est-à-dire que ça libère du temps libre pour plein d'activités en dehors de ces choses monétarisées, en dehors de l'emploi salarié. Mmh. Ça, on en aura besoin parce qu'on sait qu'une transition écologique, elle va se faire en grande partie en dehors de l'économie, à travers des activités bénévoles, à travers des associations, à travers une organisation politique, des trucs comme la Convention citoyenne pour le climat. Et donc ça, il va falloir libérer le temps disponible pour le faire. Et ensuite, il va falloir aussi travailler dans les territoires, par exemple avec une logique de garantie de l'emploi dans les territoires zéro chômeur de longue durée pour permettre à des employés qui sont dans des secteurs en déclin, là, tu avais mentionné l'aviation commerciale, pouvoir, avec leurs compétences et les compétences que ces personnes sont intéressées à avoir, s'ils veulent se reformer, dans quel métier on va pouvoir les transférer. Et encore une fois, des métiers qui nécessairement on n'attend pas le marché pour les créer, donc des métiers qui vont générer énormément de profits, parce que c'est ça, en fait, et là, on retombe vraiment sur l'aspect anticapitaliste de la décroissance. La grande partie des activités que l'on veut voir advenir aujourd'hui, qui sont très riches en valeur sociale et en valeur écologique, sont assez pauvres en lucrativité, surtout relativement eh ben, aux vieilles activités ultra lucratives du capitalisme. Mmh. Donc, on va avoir besoin de l'État aussi pour accompagner et faire le pont entre ce que les entreprises aujourd'hui sont prêtes à faire, enfin, les entreprises dans leur statut actuel, pour faire le pont, pour les amener en fait à l'entreprise du futur, qui sera cette coopérative à lucrativité limitée, qui aura une comptabilité sociale et écologique, qui pourra prendre des décisions qu'aujourd'hui, la matrice capitaliste ne leur permet pas de prendre.
Excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que la c'est la définition, c'est la post-croissance, c'est ça, ou la croissance ?
C'est ça.
Ok.
Donc, décroissance trajet, post-croissance, le projet de société derrière. Et je la définis comme une économie stationnaire en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance. Elle est symétrique à l'autre. On a l'aspect factuel, l'économie stationnaire. Une fois qu'on a réduit la production et la consommation suffisamment pour alléger l'empreinte écologique, on passe en mode stationnaire. Donc ça veut dire que l'économie, elle va parfois être en croissance faible quand il y a des besoins qui augmentent. Et quand ses besoins disparaissent, elle va être aussi en faible décroissance. Elle va osciller un petit peu en fonction de la capacité de charge des écosystèmes. Donc imagine, on découvre une nouvelle ressource, on arrive à recycler un truc, des éco-innovations, on a une potentialité de production. Si on trouve ça socialement utile, si on en a besoin, si ça correspond à un besoin, on peut se permettre de produire un petit peu plus. De la même manière, s'il y a un écosystème qui s'effondre et qu'on ne l'avait pas vu venir, eh ben, ça réduit notre production potentielle. Et donc ça veut dire qu'il faudra limiter ce que l'on produit. Et donc là, on aura un arbitrage de décroissance à faire. Ça, c'est l'économie stationnaire.
D'accord. Donc en fait, on va garder les yeux sur le compteur de vitesse et sur les indicateurs, un peu comme si on était en voiture, tu vois. Tu dis, ah ben là, on est limité à 50 parce que, voilà, et ben là, c'est, au lieu de regarder des panneaux de vitesse, on va regarder l'état des écosystèmes naturels autour de nous. Et est-ce qu'on en prend bien soin? Est-ce qu'on n'est pas en train de les faire s'effondrer? Ah, si celui-là, il s'effondre, ah, on a un problème avec le cycle de l'eau ou le cycle du phosphate ou je ne sais quoi. Ah, ça veut dire qu'il faut qu'on lève le pied sur ces sujets-là. Mais par contre, à l'inverse, on a des bonnes nouvelles aussi, parce que évidemment, les écosystèmes peuvent se régénérer et on peut se dire, ah oui, en fait, là, on pourrait accélérer un petit peu sur tel ou tel sujet, parce que sur tel ou tel écosystème, on est bon.
Ah, mais c'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup une analogie d'un économiste américain à la fin des années 60, hein, Kenneth Boulding, qui parlait d'une économie en mode astronaute. Donc, imagine la Station Spatiale Internationale, bah, tu peux utiliser que ce que tu as. Mais si tu es en mode martien, la Matt Damon, et d'un coup, tu arrives à trouver un moyen de faire pousser des patates, eh bah, tu peux faire pousser des patates. C'est trop bien. Et si d'un coup, bah, tu as ton champ de patates qui brûle parce que tu as merdé un truc, eh bah, là, il va falloir consommer moins de patates. L'économie en mode astronaute, c'est vraiment une économie véritablement circulaire. C'est-à-dire qu'on prend en compte la santé des écosystèmes et ça nous donne une contrainte, mais vraiment une contrainte d'ingénieur. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre de litres d'eau, c'est le nombre de tonnes de carbone, c'est le nombre de kilowatts qu'on peut utiliser. Et quoi qu'il se passe en termes d'argent, on ne pourra jamais dépasser cette contrainte écologique. Donc, on doit faire avec. Donc, on inverse un petit peu. Et c'est pour ça, sur le livre, on voit la montagne inversée. Donc, on inverse la logique de l'économie. Aujourd'hui, on a une économie sociale et écologique qui fonctionne sous contrainte financière. C'est-à-dire que même s'il y a un truc qui est extrêmement utile socialement et extrêmement nécessaire écologiquement, bah, si
ça
ne
rapporte
pas
d'argent. Voilà, exactement.
C'est ça. Okay. Et bien là, ce sera le contraire.
Super. Alors, là, il va falloir qu'on boucle super vite. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi dans la situation dans laquelle on est ?
Alors, en sortant le livre et pendant son écriture, moi, j'ai rencontré des intellectuels à peu près autour de mon âge, jeunes et moins jeunes, qui m'ont vraiment bluffé. Vraiment, là, il y a une effervescence d'activisme et de pensée. Enfin, pour en citer vraiment quelques-unes et quelques-uns, Victoria Guillaumont et son podcast Nouvel Oeil, hein, Céline Marty qui travaille sur l'antiproductivisme, Eva Sadoun sur l'écoféminisme, Emmanuel Pont sur l'écologie, la démographie, on a parlé de Thomas Wagner et bon pote, bien sûr, Gilles Mito, hein, qui à travers Eureka, vraiment, de la manière la plus pédagogique, expliquer l'économie à tout le monde, Julia Fort, qui réinvente la mode chez Loom, Aurore Stéphan, et qui arrive aussi de manière très pédagogique à nous expliquer les revers de l'extractivisme. Et il y en a beaucoup d'autres, mais là, il y a une véritable effervescence qui se passe. Moi, ça me rappelle beaucoup l'étude de mai 68. Donc, il y a des pensées révolutionnaires, des belles pensées, et quand on les met toutes ensemble, moi, ça me projette. Ça me projette dans un avenir, dans une utopie possible, et ça me donne la pêche.
Excellent. Quand est-ce que tu nous recenses toutes ces initiatives, tout ça ?
Ah, eh ben, très bientôt. Et d'ailleurs, c'est l'angle d'un, d'un prochain livre où je suis en train justement de faire une liste de, pour l'instant, 1000 initiatives concrètes que je vais tisser ensemble pour nous inviter dans cette, ce système économique alternatif, mais vraiment en mode Jurassic Park. Je veux pas vous dire, je veux vous y inviter et je vais vous le faire visiter comme ça de manière abstraite pour que les gens reviennent dans la réalité d'aujourd'hui et se disent un autre monde est possible, je l'ai vu, je l'ai senti, j'en ai fait l'expérience, il est là et on va faire en sorte de trouver les moyens d'y aller.
C'est génial. Donc on a un scoop. En plus, c'est pas si souvent. Et au passage, je note qu'on a quand même, tu as de toi-même parlé de vélo cargo tout à l'heure. Juste, tu as cité le mot, parce qu'il y a, il y a une règle non écrite dans ce podcast, c'est qu'on parle toujours de vélo. Voilà, donc tu l'as fait, on a coché la case, tout va bien. Quelle lecture tu as, ou quel film, quel livre, quelle vidéo, quel son éventuellement tu recommanderais à nos auditeurs?
Pour qu'il y en ait pour tout le monde, je commence par deux ouvrages académiques qui donne le peps, hein, ça ouvre l'imaginaire. Le premier, c'est tout court, ça s'appelle Commune frugale. Ça a été écrit par, il s'appelle Le Mouvement pour une frugalité heureuse et créative. Et ils ont écrit un petit manifeste qui est génial, ultra innovant, super innovant parce qu'il n'y a pas d'économistes dans les auteurs. Donc eux, ils s'en foutent en fait de l'économie. Ils se sont dit, on va réécrire les règles de l'économie. Ça marche très très bien, donc Commune frugale. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus explorer le système d'idées derrière ce genre d'initiative, l'aspect plus théorique, le second manifeste convivialiste pour un monde post-néolibéral, aussi très court, qui pour moi, sans utiliser le mot décroissance, vient vraiment rassembler plein de concepts que moi j'associe aujourd'hui à la décroissance, mais c'est un très joli livre. Ça, c'est pour les gens, les chercheurs, les intellectuels qui aiment bien lire un petit peu de philosophie, de sciences sociales et tout. Maintenant, je recommande deux romans. Et là, c'est les deux romans, moi, qui m'ont donné le plus d'énergie en 2022. C'est le truc qui m'a vraiment aidé à finir mon propre livre. D'abord, du côté de l'utopie, Voyage en vie en misarchie. Oh, alors, Voyage en misarchie, c'est un roman de 2019 d'Emmanuel Dauquès. Alors, le mec, il est prof de droit du travail à Paris-Nanterre. Donc, moi, quand j'ai vu ça, au début, je me dis, oh là là, l'utopie de la prof de droit. Il crée une société alternative géniale. Avec des modes de propriété immobilière fondante, des contrats de travail, des choses vraiment, mais c'est un monde alternatif. Tu lis ce bouquin, t'as l'impression de t'être déplacé dans le futur. Donc ça, c'est vraiment, ça montre qu'on a aujourd'hui une force utopique qu'on pourrait utiliser au lieu d'essayer d'imaginer la fin du monde. On pourrait imaginer la fin du capitalisme et se projeter dans ces mondes. Ah, et j'adore. Pour ceux qui se diraient, oui, ok, bon, bah, c'est bien de rêver, d'accord, pas de souci.
Ah, il faut
mais moi,
rêver,
je veux
bordel.
Parler de transition. Ouais. Je veux parler de politique. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, lisez Paresse pour tous d'Adrien Klein, qui est sorti en mai 2021. Et là, moi, ce livre, je l'ai lu. On me l'a envoyé. J'ai commencé à le lire. Je ne l'ai pas pu le poser. C'est-à-dire, j'ai pris ma journée. J'ai annulé tout ce que j'avais. Et c'est l'histoire des présidentielles de l'année dernière, remportée par un candidat économiste spécialiste du temps de travail qui écrit un livre qui s'appelle « Paresse pour tous » et donc qui gagne et devient président avec tout un programme autour de la paresse. Alors déjà, décroissance, on le dit souvent, mot pas super sexy, blablabla, mais paresse encore pire.
Ah non, c'est comme si on crachait à la gueule des gens qui se lèvent tôt le matin, bordel.
c'est exactement ça, mais à travers cette ode à la paresse, il construit une relation au temps et un projet de société génial, et la façon aussi dont le roman s'organise, ça suit toutes les étapes, la formation du parti, des personnes avec qui il s'entoure, de cette personne qui veut non seulement faire advenir un nouveau modèle de société, mais aussi une nouvelle forme de démocratie beaucoup plus participative. Donc ça, c'est un véritable bonheur. Je suis sorti de ce livre. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Je peux commencer
génial.
Par ces recommandations.
Bon, je te remercie pas parce que là, ça en fait 4 de plus sur ma pile de bouquins à lire. qui ressemble un petit peu... C'est le contraire du tonneau des Danaïdes. C'est plutôt la montagne des Danaïdes sur ma table de chevet, tu vois. Et en conclusion, un message court, positif et mobilisateur à faire passer pour nos auditeurs.
Moi, j'ai ma petite phrase fétiche, hein. Tout ce qui a été socialement construit peut être socialement déconstruit. Et ça, il faut se dire que quand on parle d'économie, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, on ne parle pas de loi naturelle, on parle d'un jeu qui a été créé par des humains et qui, tous les jours, est créé, détruit, reconstruit, un petit peu comme des Legos. Et donc ça... On devrait se rendre compte qu'on ne pourra pas changer les lois de la physique, on ne pourra pas changer les lois de la biologie, mais toutes les lois de l'économie, ça peut être changé. Et Je te raconte un autre truc, parce que là, donc, j'ai fait la tournée du livre, j'ai fait une centaine d'événements, machin, je me suis retrouvé partout, dans les entreprises, dans les gouvernements, en France, à l'étranger. Et bon, moi, je mince pas mes mots, hein. J'arrive et je dis vraiment les choses toujours de la même manière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus personne ne défend le capitalisme. Et donc, je me rends compte, je parle à des patrons, je parle à des employés, je parle à des chercheurs d'emploi, je parle à des hauts fonctionnaires, je parle à des étudiants. Et j'entends toujours la même histoire de « oui, ok, ça résonne, ce que vous me dites, machin, mais j'ose pas parce que mon boss, parce que mes collègues, parce que ma famille, parce que mes amis. » Et j'ai l'impression, tu sais, c'est un petit peu quand t'es au lycée et t'as deux personnes qui sont amoureux mais qui osent pas se parler. Tu dis « non, mais l'autre personne m'aime pas. » Et t'as quelqu'un qui arrive qui fait « non, mais tu devrais aller lui parler, elle, parce que je pense qu'elle t'aime bien. » Et elle, tu lui dis « ah, tu devrais aller, il va venir te parler, tu devrais écouter parce que je pense qu'il t'aime bien. » Et là, d'un coup, ça connecte. Bah là, c'est pareil. Je pense qu'on doit connecter ces gens entre eux et leur dire « les gars, vous avez des pensées en commun. Vous êtes tous en train de critiquer l'économie telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Donc, faites-vous plaisir, tenons-nous la main, discutons et transformons l'économie. »
Oh, c'est beau.
Avec un peu de poésie politique.
Mais ouais, non, mais il en faut. Il en faut. Écoute, c'est à la fois génial. J'ai adoré, tout comme j'ai adoré et que je continue de lire ton livre et les quatre que tu viens de citer. Merci, 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 Tim, pour ton temps. C'était topissime. J'espère que les auditeurs auront aimé autant que moi.
Un vrai bonheur.
Merci. Ciao.
Salut.